Chapitre 7. La naissance de ma fille a été le plus beau jour de ma vie. L'accouchement avait été long et difficile. À plusieurs reprises, je m'étais dit que je n'allais pas en être capable, que je ne pourrais pas tenir jusqu'au bout. Mais toute cette souffrance avait été balayée dès l'instant où la sage-femme avait posé ma fille contre mon sein. Elle était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Une rose encore en bouton. Absolument parfaite. Ses jolies mains, ses petits pieds, sa bouche en forme de cœur, son fin duvet blond. J'avais senti une vague d'amour déferler en moi, tellement forte qu'elle m'en avait presque donné le vertige. Suzanne, ma fille. J'avais mis au monde un bébé, moi, Anna. J'avais minutieusement préparé sa venue, accordant un soin particulier à chaque détail. Le choix des pyjamas, des bodys, l'agencement de sa chambre et surtout la décoration. Je tenais à peindre des fleurs sur les murs. J'avais longtemps hésité entre des jonquilles et des tulipes multicolores, avant d'opter pour ces dernières. Après un court séjour à la maternité, Valentin nous avait ramenés chez nous. Lorsqu'il avait ouvert d'une main la porte de notre appartement, le cosy dans lequel dormait Suzanne dans l'autre, j'avais été submergée par l'émotion. Mais ça ne m'avait pas alertée. Après tout, c'était le début d'une toute nouvelle vie à trois. Mais quand par la suite, je me suis mise à pleurer devant un paquet de couches déchirées, une porte de placard mal refermée ou un pot d'olives noires à moitié plein, j'ai compris que j'étais probablement en plein baby blues. Un syndrome qui sonne bien plus sympathique qu'il ne l'est, si vous voulez mon avis. Lentement, on avait pris nos marques. À trois, puis à deux, quand Valentin avait repris le chemin des chantiers. Petit à petit, j'apprenais à décoder ses pleurs, ses mimiques, ses besoins. Les journées, d'abord anarchiques, déroulaient peu à peu leur routine. J'étais épuisée, à fleur de peau, mais je n'avais jamais été si heureuse. Après les tétés, je m'asseyais dans le fauteuil à bascule et je berçais ma fille pendant de longues minutes tout en lui fredonnant des comptines de mon enfance. J'adorais regarder ses paupières papilloter au fur et à mesure qu'elle se laissait gagner par le sommeil. J'adorais sentir les muscles de son corps se relâcher contre le mien et la voir s'abandonner. Alors, avec d'infinies précautions, je la déposais dans son berceau, admirant encore quelques secondes la perfection de son visage avant de quitter sa chambre. Je prenais des photos, des tonnes de photos, chaque jour, pour ne jamais oublier cette période magique. Si j'avais imaginé que tout pouvait s'arrêter brutalement, j'en aurais pris encore plus. Un matin, il y a 65 jours, 8 heures et 12 minutes, je me suis réveillée avec la sensation d'être reposée, et d'avoir dormi au moins 8 heures d'affilée. Ce qui était surprenant, vu que Suzanne tétait encore 2 fois par nuit. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, il était effectivement 9 heures du matin. Je me suis précipitée hors du lit, persuadée de ne pas avoir entendu ma fille pleurer. Si j'en croyais mes seins lourds et douloureux, elle devait avoir faim. J'ai ouvert la porte de sa chambre sans prendre garde à ne pas faire de bruit. Je me suis approchée du berceau, me suis penchée pour la prendre dans mes bras, mais quelque chose m'a arrêtée. Suzanne ne battait pas des jambes pour manifester sa joie de me voir. Le silence était assourdissant. Je l'ai observée pendant de longues secondes avant de me rendre à l'évidence. Sa poitrine ne se soulevait pas. Elle ne respirait plus. Ma fille, mon minuscule bébé, Suzanne était morte. Syndrome de la mort subite du nourrisson. J'ai poussé un hurlement. Mes jambes se sont dérobées et je me suis écroulée sur le sol de la chambre. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Depuis 65 jours, 8 heures et 12 minutes, je réponds invariablement la même chose à chaque question que l'on me pose. Mon bébé est mort. Mon bébé est mort. Valentin est donc parti parce que c'était trop dur pour lui de rester ? Me demande Catherine. C'est ce qu'il a écrit sur le mot qu'il m'a laissé. Ça devait être insupportable de vivre avec moi. Depuis que j'ai perdu Suzanne, je suis comme morte, moi aussi. Je passe des heures assise sur le fauteuil à bascule de sa chambre. Je fixe son berceau en imaginant que si je ferme les yeux et que je les serre très fort, je pourrai de nouveau entendre ses petits cris de joie, ceux qu'elle faisait lorsque je lui mouillais le ventre avec de l'eau au moment du bain. Mais ça n'arrive jamais. Il n'y a plus de gazouillis, plus de pleurs, plus de petites mains qui agrippent mon t-shirt, plus rien, à part son absence. Comment dormez-vous, Anna, depuis ce jour-là ? Je ne dors presque pas. Je ne veux pas dormir. Vous ne voulez pas dormir ? Pourquoi dites-vous cela ? Parce que Suzanne est... C'est parce que je dormais que c'est arrivé. Je ne l'ai pas entendue. Si je m'étais pas endormie, elle serait peut-être encore là. J'imagine que les médecins vous ont expliqué que rien ne peut prévenir ce syndrome, que vous n'êtes pas responsable, que vous ne pouviez rien y faire. Je sais que c'est ma faute. C'est à cause de moi si elle est morte. Je hurle en me levant du fauteuil. Je suis sa mère. J'aurais dû la sauver. Il faisait sans doute trop chaud dans sa chambre. J'arrive pas à m'en souvenir. J'ai beau me repasser les images dans ma tête, je ne sais plus si j'ai regardé le thermomètre en sortant. Il faisait sans doute trop chaud, peut-être qu'elle s'était retournée sur le ventre. J'ai pas vérifié que tout allait bien avant de fermer la porte. J'ai pas vérifié ! C'est ma faute ! Ma fille est morte par ma faute ! Je hurle à plein poumon. J'attrape mes cheveux et tente de me les arracher. C'est si dur. Catherine se lève et m'entoure de ses bras. Vous n'y êtes pour rien, Anna.
Ma petite fille, mon bébé, elle me manque tellement,
sanglotai-je.
J'aurais dû.
Vous n'y êtes pour rien.